DW. Info Matin.
Merci d'écouter Info Matin sur les ondes de la Deutsche Welle. Il est 7h en temps universel, 2h de plus dans nos studios ici à Bonn et partout en Allemagne. Bonjour, nous sommes ensemble avec vous pour une demi-heure d'information. Nous, c'est Rodrigue Guézodier et Fréjus Kenon.
Bonjour Rodrigue Guézodier, bonjour à toutes et à tous. À suivre ce vendredi 6 septembre 2019, la mort de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe. Il a dirigé son pays d'une main de fer pendant près de 40 ans. Il est décédé à l'âge de 95 ans à Singapour. Nous reviendrons sur son héritage.
Ouverture du procès de Boris Kamto, c'est au Cameroun. Le principal opposant au président Biya sera jugé par un tribunal militaire pour insurrection et hostilité contre la patrie. Des accusations pouvant entraîner la peine de mort. Retour sur les tenants et aboutissants de son emprisonnement.
Encore au menu de ce journal, un rapport des Nations Unies qui établit des liens entre le phénomène de la dégradation des terres et certaines formes de migration, puis le séjour d'Angela Merkel en Chine.
Info Matin, comme vous le savez déjà, c'est également l'actualité sportive. Et Fiacre Ndaira Guidje, il sera principalement question ce matin.
Oui, exactement. Le football sud-africain impacté par la crise de xénophobie dans le pays. Au menu également, la réaction de Joachim Löw, le sélectionneur allemand, à l'approche du match Allemagne-Pays-Bas.
Tout le contenu sportif, c'est donc dans une vingtaine de minutes, juste avant notre rubrique du jour. 77% qui s'intéressent aujourd'hui au théâtre burundais. Mais tout de suite, pour commencer, les dernières nouvelles du monde avec vous, Fréjus Kenon.
L'ex-président Robert Mugabe est décédé à Singapour à l'âge de 95 ans. Il a été déchu lors d'un coup d'état militaire en novembre 2017. L'annonce de son décès a été faite par l'actuel président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ce vendredi matin. Mugabe a régné sur le Zimbabwe pendant près de 40 ans. Héros de l'indépendance, il était aussi une figure controversée. Ses détracteurs l'accusent d'être responsable de la mauvaise performance économique du pays, de corruption et de plusieurs crimes contre l'humanité. Nous y reviendrons dans quelques minutes. La chancelière allemande Angela Merkel est en visite en Chine. Elle doit rencontrer aujourd'hui le président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants vont avoir des discussions, entre autres sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Un conflit qui touche indirectement aussi des entreprises allemandes. Mais la chancelière devra aussi évoquer la situation à Hong Kong. En Allemagne, de nombreuses voix l'ont exigé. Cette ex-colonie britannique est confrontée depuis plusieurs semaines à des manifestations contre l'influence croissante de Pékin. Les manifestants redoutent des restrictions de leur liberté.
À Londres, des discussions à la Chambre haute du Parlement sur le Brexit.
Oui, les élus doivent discuter de la loi contre un retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne sans accord le 31 octobre prochain. Un vote est attendu vers 18h. Si la Chambre des Lords apporte des amendements, le projet de loi devrait repasser devant la Chambre basse dès lundi prochain avant d'être présenté à la reine Elisabeth II pour promulgation. Le projet a été adopté par les députés mercredi dernier contre le vœu du Premier ministre Boris Johnson.
Et Fréjus, l'ambassadeur des États-Unis près l'Allemagne souhaite une interdiction en Allemagne des activités du Hezbollah.
Richard Grenell a effectivement demandé que Berlin interdise les activités du groupe islamiste radical Hezbollah en territoire allemand. Dans une tribune publiée dans le journal Die Welt, l'ambassadeur américain a indiqué que l'Allemagne donnerait ainsi un signal fort contre la violence, le terrorisme et la haine antisémite. Mythes en Europe. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé des mesures radicales à l'encontre des auteurs de violences faites aux femmes. Les agressions sexuelles sont en hausse en Afrique du Sud. Le président Ramaphosa affirme que les violences visant les femmes constituent une crise dans le pays. On enregistre chaque jour 137 actes de violences sexuelles en Afrique du Sud. Uniquement pour le compte du mois d'août, 30 femmes ont été tuées par leur mari. Les Russes vont élire dimanche leurs représentants locaux après une campagne extrêmement mouvementée ayant entraîné à Moscou l'une des plus grosses opérations de répression judiciaire contre des manifestants en près de 10 ans. Des scrutins municipaux et régionaux auront lieu dans tout le pays, mais la capitale sera au cœur de l'attention après avoir été touchée par une vague d'arrestations et de condamnations.
DW.
Info matin, 7h04 en temps universel, 9h04 au Zimbabwe. Le Zimbabwe qui pleure fait juste la mort de son ancien président. Robert Mugabe est décédé, vous l'avez annoncé tout à l'heure, à Singapour à l'âge de 95 ans. C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l'ancien président, le commandant Robert Mugabe. C'est ce qu'a déclaré Emmerson Mnangagwa dans un tweet. Il aura survécu moins de 2 ans après son humiliante démission en novembre 2017 sous la pression de l'armée.
Oui, pendant son règne de 37 ans à la tête du Zimbabwe jusqu'à sa chute en 2017, Robert Mugabe est passé du statut de héros de l'indépendance et ami de l'Occident à celui de tyran qui a provoqué l'effondrement économique de son pays, très apprécié à son arrivée à la tête de l'ex-Rhodésie, devenue indépendante en 1980. Sa politique de réconciliation au nom de l'unité du pays lui vaut des louanges général, particulièrement dans les capitales étrangères. Et en quelques années, le révolutionnaire remet le pays sur les rails.
Mais très vite aussi, le pays va basculer dans la dictature. Le héros s'en prend à ses opposants. On se souvient des 20 000 morts de la répression brutale de Matabeleland, des fraudes électorales et surtout sa violente réforme agraire qui précipitera l'effondrement d'une économie déjà à la peine et toutes les situations qui montreront donc
qui mettront le Zimbabwe
au devant de la scène. On écoute l'analyse de Mohamed Diatta. Il est chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Pretoria.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fait que Mugabe a su porter le discours anti-impérialiste, non seulement à l'échelle de l'Afrique australe, mais aussi à l'échelle continentale. Et donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été à son avantage dans la mesure où beaucoup de personnes, d'individus, de leaders, mais aussi d'individus ordinaires africains s'identifient à cette vision qu'il avait de l'Afrique, cette vision, je dirais, peut-être même panafricaine. Et donc, il y avait ça, il y avait ce discours-là qui était effectivement très attrayant.
Et ce qui lui plaisait, c'est donc sa réforme agraire, la dépossession des Blancs, mais là où ça a péché, les Noirs n'avaient pas la technologie et cette réforme a montré très vite ses limites.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, le fait que la réforme n'a peut-être pas été conçue dans les meilleurs des termes, mais je veux dire que dans la justification de cette réforme-là, personne n'avait rien à redire. Si les terres au Zimbabwe étaient à 90% possédées par la minorité blanche, Mugabe a estimé qu'il fallait faire quelque chose pour réparer les inégalités qui perduraient dans le Zimbabwe après les indépendances.
Alors, même si Mugabe avait bien commencé, héros de l'indépendance, celui qui a lutté contre le régime raciste de Ian Smith dans les années 70, il a quand même laissé un mauvais souvenir, surtout dans la gestion de la politique. Les élections ont souvent été frauduleuses et l'opposition a été vraiment mise sous pression au Zimbabwe.
Ça s'explique par simplement le fait que Mugabe a eu cette volonté, le régime Mugabe a eu cette volonté de se maintenir au pouvoir. Mais c'est un régime qu'il faut dire qui persiste aujourd'hui. Parce que Mugabe étant parti, le régime lui-même n'en est véritablement pas changé. Même la dernière élection présidentielle nous le montre assez bien. Ça a été une élection contestée, controversée, du fait que l'héritage est toujours là, la ZANU-PF reste au pouvoir.
Voilà, né le 21 février 1924 dans la mission catholique de Kutama, dans le centre du pays, Robert Gabriel Mugabe était le plus vieux chef d'État en exercice de la planète, longtemps considéré comme indéboulonnable. Il est acculé à la démission, il est poussé à la démission le 21 novembre 2017.
Oui, Fréjus Kenhomme, on en reparlera tout au long de la journée, surtout dans notre édition de 17h en temps universel. Le président centrafricain a déploré hier dans un entretien à l'AFP la démission du gouvernement de deux chefs de guerre influents et les tentatives de saper l'accord de paix conclu en février entre les autorités et 14 groupes armés.
Faustin Archange Touadéra, qui venait d'être reçu par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée, a aussi assuré que l'influence croissante de la Russie dans son pays, notamment l'influence militaire, se faisait en toute transparence et n'était pas concurrente de celle de la France.
Au Soudan, on connaît enfin, depuis hier soir, le premier gouvernement post-Béchir, une étape majeure en plein processus de transition avec la mise en place d'institutions devant mener à un pouvoir civil.
C'est une première équipe constituée de 18 membres, dont 4 femmes. Asma Mohamed Abdallah est la toute première soudanaise à prendre le portefeuille des affaires étrangères. Nous entamons ce jour une ère nouvelle, a déclaré le chef du gouvernement, Abdallah Hamdok.
Au Bénin, c'est le troisième gouvernement de l'ère de la rupture sous le président Patrice Talon qui a été dévoilé hier soir. On note l'entrée de 6 nouveaux ministres contre 3 sortis et des portefeuilles scindés.
Scissions qui ont débouché sur la création de ministères notamment du numérique et digitalisation, de la communication et de la poste et celui du tourisme, de la culture et des arts. Au nombre des entrées, Hervé Héroumé revient à son ancien poste des infrastructures et des transports. Il faut préciser que 3 femmes font leur entrée contre 2 sorties pour un total de 24 portefeuilles.
Au Bénin, il est 8h10.
Vous écoutez la DW.
Au Cameroun, c'est ce vendredi que doit être jugé devant le tribunal militaire de Yaoundé Maurice Kamto, le principal opposant au président Paul Biya.
Le leader du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018, est poursuivi pour 8 chefs d'inculpation, dont insurrection et hostilité contre la patrie. Éric Topona revient sur les raisons de son emprisonnement.
L'ancien ministre délégué à la justice du Cameroun, Maurice Kamto, et une centaine de ses partisans sont incarcérés à la prison centrale de Yaoundé depuis fin janvier 2019. Leur crime, avoir voulu manifester contre la réélection qu'ils jugent frauduleuse du président Paul Biya au pouvoir depuis bientôt 36 ans. Maître Éric Dupont-Moretti, l'un des avocats de Maurice Kamto qui n'a pas été autorisé à aller défendre son client, juge incompétent le tribunal militaire qui est chargé du dossier.
Ces chefs d'inculpation ne résistent pas à un examen sérieux. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être un opposant politique pacifique. Vous savez, quand il n'y a pas de règles, c'est compliqué de faire valoir les droits élémentaires.
Donc vous êtes sceptique.
Ce n'est pas un processus judiciaire classique. C'est une justice pour museler, bâillonner le professeur Kamto qui a beaucoup de choses à dire.
Très engagé depuis le début de la crise dans les deux provinces anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, le député allemand du FDP, le parti libéral allemand Christoph Hoffmann, estime injuste d'incarcérer un opposant uniquement parce que celui-ci a voulu organiser une marche de protestation pacifique. Christoph Hoffmann réclame ainsi la libération de Maurice Kamto.
Vraiment triste que le leader de l'opposition aux prisons depuis janvier, il doit être libéré. Et j'espère que le président Biya va être extrêmement fort et il va libérer les leaders de l'opposition. Toute l'opposition doit être libérée et on va essayer maintenant que le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas, va aller au Cameroun pour regarder les situations un peu et aussi pour aider le peuple de Cameroun un peu plus dans leur voie à la prospérité et des paix.
Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme dénoncent également un procès politique et c'est pourquoi la France, les États-Unis et l'Union européenne réclament eux aussi la libération de Maurice Kamto qui risque la peine capitale au regard des 8 charges qui pèsent contre lui. Il s'agit d'une affaire de droit commun et non politique, affirme pour sa part Pascal Charlemagne Messanga, un des membres du comité central du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC.
Merci Eric Topona. Au moins 10 personnes, dont un ressortissant étranger, ont été tuées dans les violences xénophobes cette semaine en Afrique du Sud. C'est ce qu'a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa au moment où s'apaisent les tensions avec le Nigeria qui s'est engagé à coopérer avec Pretoria.
L'otage sud-africain avait été un Sud-Africain employé d'une société minière canadienne a été relâché jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo. La RDC, qui vit depuis quelques jours au rythme d'une affaire de disparition présumée d'argent public d'un montant de 15 millions de dollars visant un proche du président de la République, Félix Tshisekedi.
Oui, des ONG s'interrogent sur le rôle du très influent directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, dans cette affaire dite 15 millions de dollars, le montant de la somme qui manquerait dans les caisses du Trésor public.
Fin de la visite du ministre allemand des Affaires étrangères en RDC. Heiko Maas a rencontré là-bas le président Félix Tshisekedi à Kinshasa après son passage à Bukavu à l'hôpital pour femmes du docteur Mukwege. Avant son entretien avec le chef de l'État congolais, Heiko Maas s'est prononcé entre autres sur l'évolution politique et la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. On parle maintenant de l'armée malienne.
Oui, l'armée malienne, justement.
Qui a mené hier dans le centre du pays, selon une source militaire, des opérations dans le groupe armé Dogon d'Annan Ambassagou, officiellement dissous sans pour autant avoir cessé ses activités, dit avoir été la cible.
Oui, le Mali qui va bénéficier donc d'un appui du Fonds central d'intervention d'urgence au même titre que le Burkina Faso et six autres pays qui vivent tous des situations d'urgence sous-financée. Le chef de l'humanitaire des Nations Unies a débloqué hier 115 millions de dollars pour permettre aux travailleurs humanitaires de fournir une assistance vitale à plus de 4 millions de personnes touchées par des conflits, des catastrophes naturelles et d'autres crises.
C'est dit. Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Voilà, c'est désormais confirmé, il existe des liens entre le phénomène de la dégradation des terres et certaines formes de migration. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport publié par les Nations Unies en marge du sommet sur la lutte contre la désertification qui se tient actuellement à New Delhi.
Oui, c'est en 2015 qu'une équipe a été mandatée par les Nations Unies et conduite par l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations, pour étudier le phénomène. Des explications de notre envoyé spécial à New Delhi, Kosivi Tiasu.
Dans leur rapport, les experts onusiens reconnaissent la complexité du phénomène. Mais après 4 années de recherche, leur constat est clair. La dégradation des terres explique certains mouvements de population. Mariam Traoré-Chazanouel, spécialiste des migrations et environnement à l'OIM, est co-auteur du rapport.
En général, les gens migrent dans des endroits proches de là où ils sont déjà. Mais on a aussi des exemples, surtout dans les cas de sécheresse intense, où on voit des personnes migrer au-delà des frontières. Ils vont dans d'autres pays, soit de la région ou même au-delà, pour pouvoir justement compenser le fait qu'ils ne peuvent pas vivre de l'agriculture ou de l'élevage.
Dans un pays comme le Mali, peut-on lire dans le rapport, 96% de la population vivent dans des zones arides, or ces populations ne dépendent que de l'agriculture. Pour survivre, de nombreux Maliens ne peuvent compter que sur les membres de leur famille qui ont émigré notamment dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, selon les experts onusiens. Certains pays qui ne sont pas beaucoup touchés par la désertification subissent aussi les conséquences qu'elle engendre. C'est le cas de la Centrafrique qui accueille des populations entières venues du Tchad et du Niger qui ont dû abandonner leur localité à cause de l'aridité des sols. Une situation que regrette Laetitia Bukoro, ministre déléguée auprès du Premier ministre centrafricain.
Ceux qui subissent plus la désertification et qui sont à la recherche de pâturages, qui sont à la recherche de terres, viennent nous envahir sous les yeux, voilà, impuissants, des paysans qui parfois voient leur culture détruite par le bétail qui vient de l'autre côté, et en voulant réagir aussi, les éleveurs viennent avec des armes de petit calibre, et puis voilà, ça entraîne des crimes, ça entraîne beaucoup d'autres problèmes qui finalement nous ont conduits dans des conflits qui durent jusqu'à aujourd'hui.
Les liens désormais confirmés entre la dégradation des terres et les migrations ne se limitent pas qu'aux États africains. Des pays asiatiques comme le Bangladesh, le Guatemala, l'Inde, le Pérou ou encore la Thaïlande et le Vietnam sont aussi concernés. Kosivi Tiasu à New Delhi pour la Deutsche Welle.
DW. Le sport. Fiat Ndaira Gidje.
Et on ouvre cette page sportive par le football en Afrique. En raison des violences en Afrique du Sud, la sélection sud-africaine de football a regroupé ses joueurs en vue de livrer des matchs amicaux, mais elle peine à trouver un adversaire fiacre.
Oui, justement, et pourtant, l'Afrique du Sud est l'une des meilleures sélections de football sur le continent. On s'en souvient, elle avait éliminé l'Égypte en 8e de finale lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en juin dernier. En principe, elle ne devrait pas avoir des problèmes pour ses préparatifs dans le cadre des matchs amicaux. Mais le Madagascar a rejeté hier la requête sud-africaine, arguant l'insécurité de ses joueurs. Et selon du moins le communiqué de la Fédération malgache de football, le Madagascar rejoint ainsi la Zambie qui samedi a annulé aussi le match qui devrait l'opposer à l'équipe sud-africaine à Lusaka, en signe justement de protestation contre la poussée xénophobe au pays de Nelson Madiba Mandela.
En football encore, trois joueurs africains ont été présélectionnés pour l'équipe FIFA de l'année.
Oui, comme l'an dernier, l'Égyptien Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, son coéquipier, le Sénégalais Sadio Mané, sont à nouveau parmi les 55 présélectionnés. Mais cette année, ils sont rejoints sur la liste par le Sénégalais Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples. Il faut rappeler que cette liste a été effectuée par 23 000 footballeurs professionnels à travers le monde et chacun a nommé une équipe de son choix, c'est-à-dire un gardien de but, 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants.
Parlons enfin des éliminatoires aussi en Europe, l'Allemagne face aux Pays-Bas.
L'une des affiches les plus attendues de la 5e journée des éliminatoires à l'Euro 2020, car elle va opposer deux des meilleures sélections européennes. Suivez le sélectionneur allemand Joachim Löw qui nous parle ici de l'esprit de l'équipe à quelques heures seulement de cette rencontre phare. L'ambiance au sein de l'équipe est vraiment bonne, il faut le dire. Nos jeunes joueurs se connaissent parfaitement depuis qu'ils étaient déjà dans la sélection des moins de 19 ans. Comme vous pouvez le voir, ils s'amusent entre eux. Ils ont aussi l'envie du succès et c'est un bon début pour le groupe.
Die Mannschaft steht wirklich am Anfang.
Il faut préciser que dans le groupe C, l'Irlande du Nord est en tête avec 12 points sur 4 matchs, suivi de l'Allemagne, 9 points dans 3 matchs et des Pays-Bas, 3 points au terme des 3 matchs.
Merci à vous, Fier Kondai Raguidje. On vous retrouve tout à l'heure à 17h en temps universel pour une autre chronique sportive.
DW. Reportage 77%.
Le théâtre au Burundi est à la croisée des chemins. Sans subvention de l'État, il a du mal à se développer. Des investisseurs le soutiennent, mais pas suffisamment pour permettre un bouillonnement de la création et un renouvellement permanent donc des productions.
Autrement dit, il a besoin, Rodrigue, d'un succès qui lui assure des moyens financiers. Arthur Ban, comédien et metteur en scène burundais, compte sur le public pour aider à développer son art dans ce pays. Notre correspondant à Bujumbura, Antiditest Niragira l'a rencontré.
Arthur Bashayeko est connu sous le sobriquet de Arthur Ban, acteur et metteur en scène burundais et directeur artistique de Muninya Theatre Company. Ban n'a jamais fréquenté une école d'art dramatique. Il a commencé par des pièces de théâtre au lycée et depuis 2005, il poursuit sa carrière sur les planches. Cet autodidacte s'est formé sur le temps et dans l'espace scénique. Et il compte relever les défis pour développer le théâtre burundais.
Le théâtre fonctionne grâce aux entrepreneurs qui mettent leur budget au théâtre. Ça fonctionne grâce au public qui vient et qui invite d'autres personnes une fois sorties. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup plus d'autres choses à faire et à proposer pour trouver la solution à ce problème. Nous avons le même problème au Burundi, nous n'avons pas de subvention de l'État, mais le théâtre peut survivre sans subvention de l'État si le secteur privé et le public en général est intéressé par le théâtre et veut vraiment contribuer dans la valorisation des productions.
Comment faire du public un acteur du développement du théâtre au Burundi? C'est la principale interrogation du jeune acteur et metteur en scène burundais, Arthur Ban. Après 3 semaines de renforcement de capacité au Lincoln Center Theatre aux États-Unis d'Amérique, ce jeune comédien ramène des connaissances, fruit des échanges avec plus d'une cinquantaine de metteurs en scène, acteurs et régisseurs venus de 4 coins de la planète. Il entend les transposer dans le milieu du spectacle burundais.
Depuis que j'ai commencé à faire le théâtre, je vois que beaucoup plus la majorité de mon public ce sont des jeunes. Mais nous ne faisons pas vraiment des spectacles que pour les jeunes. Le théâtre n'existe pas en dehors de la vie économique, sociale, politique d'un pays. C'est toute une vie d'une société. Quand nous disons que nous voulons que le public soit un facteur de développement du théâtre, nous voulons que, quand une personne vient voir le spectacle, qu'ils aillent parler dans leur famille, dans leur groupe, avec leurs amis, qu'ils leur disent ce qu'ils ont vu, leur invitent dans nos prochaines productions. Je pense qu'ils seraient en train de contribuer au développement du théâtre.
Le théâtre burundais est suivi au niveau local et régional. Le public commence à s'y intéresser davantage qu'avant. Et pour atteindre le maximum de spectateurs, les troupes de théâtre ont décidé de quitter la salle de spectacle classique pour investir les lieux publics comme les écoles, les cabarets et autres. Grâce à Ruikila est une danseuse et chanteuse burundaise évoluant en Rwanda dans la communauté d'artistes dite Mashirika. Il apprécie le travail d'art urbain.
J'ai eu la chance de le croiser au Rwanda grâce à son ami Rivardo. On s'est rencontrés à Kigali dans un festival qui se déroule chaque année, précisément à Kisozi. Et j'ai eu la chance d'assister à leur pièce, Bomanda. Et c'est une pièce qui nous est restée dans nos mémoires. On a beaucoup apprécié leur travail. Ils ont un talent époustouflant, on a beaucoup rigolé. J'aimerais qu'ils produisent d'autres pièces encore ailleurs, pas seulement en Afrique.
Le grand chantier auquel sont confrontés les acteurs du monde du théâtre au Burundi reste celui de créer le pont intergénérationnel avec des sujets réunissant tout le monde. Et au-delà du rôle des acteurs, pour attirer un public diversifié, il incombe également aux spectateurs de devenir des agents de vulgarisation pour que le théâtre burundais continue de se développer. En qualité de Neira Gira, à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
À vous la parole.
Et vous avez été nombreux à commenter les violences contre les étrangers en Afrique du Sud. Mais d'abord, vos réactions à la suite du remaniement ministériel en Côte d'Ivoire avec Rémi Malé.
À un an de la présidentielle ivoirienne, le président Alassane Ouattara a nommé mercredi un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale comprend 41 ministres contre 36 dans le précédent gouvernement et 7 secrétaires d'État contre 5. À travers ce gouvernement pléthorique, le chef de l'État ivoirien a ainsi lancé son équipe de campagne pour les joutes électorales prévues l'an prochain, affirme Kaderli d'Abidjan. Toutefois, il faut souligner qu'Alassane Ouattara n'a pas encore dit s'il briguerait un autre mandat. Mais pour notre auditeur ivoirien, ce qui est regrettable, c'est que pendant que les Ivoiriens ont faim et à joindre les deux bouts, le président Ouattara utilise l'argent du contribuable pour faire plaisir à certains de ses amis. C'est aussi l'avis d'Abdou Maliki de Lomé au Togo. À l'en croire, l'augmentation du nombre de ministres n'a pas d'influence sur la qualité des services publics. La plupart des postes ministériels sont des récompenses. Ils sont venus juste pour se servir et non pour travailler, écrit-il. Et Souoro Dazové au Bénin abonde lui aussi dans le même sens.
Les élections, c'est pour bientôt. C'est pour faire, pour avoir des représentants dans chaque zone, dans son pays. C'est pour avoir la même mise dans chaque département, pour que lorsque ceux-là vont se mettre sur le terrain, ils sauront comment maîtriser la population pour avoir un pourcentage très fort.
Des commentaires aussi à propos de l'Afrique du Sud avec les violences visant les étrangers. Simon Lumbumbashi en RDC dénonce le manque d'humanité des personnes qui s'en prennent aux étrangers. Il salue au passage la décision du Nigeria de boycotter le Forum économique mondial Afrique qui se tient cette semaine au Cap. Herle à Kinshasa condamne également ces attaques et appelle Pretoria à prendre des mesures adéquates pour faire face à cette violence.
On ne peut jamais encourager un État qui ne pompe pas la sécurité des étrangers sur son sol. La justice, la police doit être là pour réguler toutes ces choses-là.
Ce qui se passe en Afrique du Sud nécessite une enquête internationale diligentée par l'ONU pour traduire en justice les responsables directs et indirects de ces crimes, écrit Fidel Dizoro en RDC pour conclure.
Voilà, 7h28 minutes, c'est presque la fin de cette édition. Un bref rappel des titres avec vous, Frédéric Kenom.
La mort de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, 95 ans, est décédé à Singapour où il était soigné. Ouverture aujourd'hui au Cameroun du procès de l'opposant Maurice Kamto, arrêté en janvier lors de manifestations pacifiques contre le pouvoir. La visite officielle de la chancelière Angela Merkel de l'Allemagne en Chine. Il sera question de commerce, mais aussi des troubles à Hong Kong liés à des manifestations hostiles au régime de Pékin. Algérie, nouvelle manifestation aujourd'hui pour le 29e vendredi consécutif contre le système au pouvoir. Et puis, bien sûr, le Brexit qui continue de secouer la Grande-Bretagne.
Merci à vous, Frédéric. Merci à la technique et merci à tous ceux qui nous ont suivis pour votre fidélité. Rendez-vous à 17h en temps universel pour le journal du soir. Excellente journée à toutes et à tous. Frédéric, on leur souhaite bonne journée.
Tchuss.